Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme, Marie-Laure Janssens. Vous avez intégré une communauté religieuse de la région de Lyon qui s'appelle les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean. Il vous a fallu 11 ans pour réaliser que dans cette communauté, vous avez été victime de manipulation mentale, d'emprise. Vous racontez ces 11 années dans un livre, Le silence de la Vierge, qui est paru chez Bayard, et c'est ce livre qui a inspiré mon histoire d'aujourd'hui. Avant de la raconter, il faut quand même que je resitue votre témoignage dans son contexte. Les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean, dont vous avez été membre, font partie d'une communauté plus large qui s'appelle la Communauté Saint-Jean, les Petits Gris, comme on les appelle. C'est une communauté qui, depuis 10 ans, est au cœur d'un immense scandale. Le fondateur de la communauté, qui s'appelait le père Marie-Dominique Philippe, qui est décédé aujourd'hui, était sur le point d'être béatifié quand on s'est aperçu, in extremis, qu'il avait couché avec beaucoup de femmes dont il était le conseiller spirituel. Bonjour le modèle. La communauté a été, comme d'autres, frappée par plusieurs scandales de pédophilie et d'agression sexuelle, et elle a été accusée dans son ensemble de dérives sectaires. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas folle, Marie-Laure, autant le dire maintenant, que votre histoire est étayée par d'autres témoignages, par des enquêtes, notamment réalisées par le magazine catholique Goliath. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site goliath.fr. Vous trouverez tout un tas d'informations sur la communauté Saint-Jean. Et voici donc votre histoire, Marie-Laure, que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est une histoire qui commence par un petit mensonge. En novembre 1996, Marie-Laure, qui a 21 ans, va frapper à la porte d'une communauté religieuse à Attichy, dans l'Oise, la communauté de Saint-Jean. Elle prétend qu'elle est étudiante et qu'elle fait une enquête pour un travail de sociologie. Et c'est vrai, elle est à Sciences Po Paris en deuxième année. Mais ça n'est pas dans ce cadre que ce jour-là, elle frappe à la porte de ce prieuré catholique. En vérité, c'est une démarche personnelle. Elle a grandi dans un milieu catho-bourgeois à Compiègne et depuis toute petite, la religion la travaille. Le déclic s'est fait quand elle avait 14 ans, un livre de Sœur Emmanuelle, chiffonnière avec les chiffonniers, une vie au service des pauvres. L'été dernier, elle a fait un pèlerinage à Jérusalem. Et là, elle vient de passer 2 mois comme volontaire dans une communauté qui accueille des handicapés. Elle est mûre. Il n'y a plus qu'à cueillir le fruit. À la communauté Saint-Jean d'Attichy, Marie-Laure a rendez-vous avec le frère Régis Marie. Un grand roux d'environ 40 ans, les yeux bleus, potelés, très doux. Elle pose son dictaphone sur la table. « Alors, pourquoi portez-vous l'habit et pouvez-vous nous dire en quoi il sert votre communauté ?» Elle pose comme ça une tonne de questions. Elle veut tout savoir. Et en face, le frère Régis répond à tout tranquillement, avec sa voix feutrée. Et sans cesse, il répète « Voyez-vous, ce qui importe, c'est la recherche de la vérité. » Dans la tête de Marie-Laure, c'est un nouveau déclic. Elle est comme happée par les mots du frère Régis Marie. Et lui, en face, il voit bien qu'elle est réceptive.
« Que fais-tu l'année prochaine ?»«
Eh bien, j'aimerais faire de la théologie. » Je vais sûrement m'inscrire à l'Institut catholique de Paris.
Si je puis me permettre, la catho n'est pas le meilleur endroit pour faire de la théologie. Le mieux serait de commencer par une année de philosophie. Tu devrais venir étudier à Saint-Jodard. C'est un petit village à côté de Lyon. Et la communauté de Saint-Jean, il y a un centre de formation.
Le frère Régis Marie me proposait plus que des études. C'était une communauté qui s'ouvrait à moi. Je ne sais pas décrire ce que je ressentais, mais ses paroles me séduisaient. À l'évidence, il incarnait un idéal spirituel qui m'attirait. Et voilà donc comment, quelques mois plus tard, Marie-Laure atterrit à Saint-Jodard, où, dans un prieuré, une quarantaine d'étudiants suivent des cours de philosophie et de théologie. Juste à côté, elle trouve une colocation avec 4 autres filles. Elle se sent bien avec elles. Elles sont sur la même longueur d'onde. J'étais passé de Saint-Germain-des-Prés à ce coin de campagne perdue et paradoxalement, j'avais le sentiment d'être sorti de l'isolement. Je me sentais renaître. Et à Saint-Jaudard, elle côtoie aussi quelques sœurs contemplatives. Elle les trouve joyeuses, elle les trouve fraîches. Mais en même temps, elles lui font un peu peur. Est-ce qu'elle est faite pour ça? Quelle est sa vocation? Ça gamberge dans sa tête et ça l'épuise. Ça l'épuise tellement qu'un jour, elle rentre dans sa piole, elle s'écroule sur son lit et elle dort pendant 24 heures. Mais le lendemain, quand elle se réveille, sa décision est prise. Elle ne luttera plus contre Dieu. Elle va le laisser faire. Je vous l'ai dit, sa décision d'intégrer la communauté n'est pas encore prise. Elle a des doutes et elle voudrait bien que Dieu décide pour elle. Mais elle est mûre. Elle attend juste le déclic. Un jour, à l'occasion de la Semaine Sainte, on lui propose de s'inscrire à une retraite chez les sœurs contemplatives de Saint-Jean. Ça fait des mois qu'on lui parle de l'une de ses sœurs, sœur Marthe, la maîtresse des novices. On lui a dit qu'elle avait un charisme exceptionnel. Donc elle y va. Et elle se retrouve face à sœur Marthe. Et l'autre n'y va pas par quatre chemins. Ton cas est clair comme de l'eau de roche, ma fille. Ta place est chez les sœurs. Quand veux-tu entrer ? Dans son livre, elle écrit. Ses paroles étaient tellement nettes et spontanées que je les ai accueillies non comme le fruit d'une réflexion humaine, mais comme une réponse fulgurante du ciel. C'est la manifestation divine qu'elle attendait. Et donc, en septembre 1998, Marie-Laure fait sa rentrée chez les sœurs contemplatives de Saint-Jean à Saint-Jaudard, près de Lyon. Elle débarque un samedi, jour de désert, comme elles disent. C'est comme ça qu'elles appellent leur jour de repos, le jour de désert. On l'installe dans une cellule, un lit, quelques étagères, un tapis pour prier, une croix, une icône, et c'est tout. Et le lendemain matin, elle plonge dans le grand bain. Son premier office dans le cœur avec les autres.
Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
On lui remet sa mélotte, son habit, une sorte de tunique bleu marine, et on lui présente sa sœur Ange, l'ange qui va veiller sur elle, une religieuse plus âgée qui sera chargée de l'accompagner. La sienne s'appelle sœur Marie Ségolène. Et Marie-Laure se dit qu'elle tombe bien parce que depuis le premier jour, le matin, elle a des vertiges. À la chapelle, quand les sœurs commencent à chanter, elle a la tête qui tourne, comme si son corps lui envoyait un message, comme si son corps disait stop. Mais pour l'instant, ça n'est pas le corps qui décide, c'est le cœur. Les mois passent. Sa vocation n'a rien d'évident. Elle a des doutes. Mais d'une certaine manière, c'est ce doute qui la conforte dans son choix. C'est difficile. Et sa démarche est d'autant plus belle qu'elle est difficile. Voilà. Je voulais me tenir face à Jésus et tout remettre entre ses mains. Mais pour franchir ce pas, j'avais besoin d'une confirmation. J'attendais le déclic. Donc, à la recherche du déclic, elle se résout à s'en remettre à sœur Marthe. Ma foi, elle saura sans doute décrypter les signes qu'elle-même ne peut pas voir, qu'elle ne sait pas voir. Cet abandon de mon propre jugement me paraît aujourd'hui relever d'une incroyable imprudence. J'avais remis les rênes de ma vie à ma supérieure. Parce qu'en la matière, elle ne peut pas compter sur les autres novices de la communauté. Elle n'a pas le droit de leur parler de ce qui lui trotte dans la tête. C'est la règle de base de la communauté, la règle dite relationnelle. Il ne faut pas se dévoiler, il faut en dire le moins possible sur soi-même. Un jour, bêtement, elle dit son âge à une autre sœur.
« J'ai 23 ans !»
Ça ne se fait pas, l'une des anciennes lui dit.
« Il faut vraiment éviter ça, vraiment. Ça donne un regard trop humain entre nous. »
Trop humain ? Il y a une autre règle, ne jamais s'épancher sur ses doutes. Ne jamais partager ses états d'âme. Quand une novice a un coup de mou, il est inenvisageable d'aller frapper à la porte d'à côté. Inenvisageable. Idem pour les gens de l'extérieur, les laïcs. Il n'est pas permis de se confier à eux. Sœur Marthe le répète souvent. Hein.
Parlez de nous, ma fille. Ce n'est pas notre vie.
Avec du recul, tout ça. C'est une route toute tracée vers une dépendance affective, non ? En 1999, en tout cas, Sœur Marthe elle-même devient la sœur responsable de Marie-Laure. Elle est son cornac. Et d'entrée, elle s'applique à la couper de l'extérieur, et même du frère Régis Marie, avec lequel elle était restée en contact.
« Ma fille, il ne pourra pas t'aider à plonger dans la vie des sœurs, à être dans l'unité avec elles. »
Si on se résume, il n'y a plus qu'une seule personne à qui Marie-Laure peut se confier, c'est Sœur Marthe. Elle devenait l'unique personne à qui nous devions nous confier profondément. C'était elle qui nous connaissait dans l'intimité, elle qui recueillait nos secrets. Alors elle voit encore ses parents. Ils viennent de temps en temps, mais au compte-gouttes. Hein. Les parents, c'est l'extérieur. L'extérieur, c'est mal. Et quand elle voit ses parents, Marie-Laure se met une pression de dingue. Les visites doivent être parfaites, parfaites. Alors elle joue un rôle. Elle ne lâche rien de ses états d'âme, c'est du théâtre. Au noviciat, on leur apprend l'art de la correction. Ne pas marcher trop vite, ne pas parler trop fort, être sous contrôle, tout le temps. Un jour, ses parents lui apportent une polaire, un peu moderne. Commentaire de sœur Marie-Ségolène.
Ah, et les nouvelles, cette polaire ?
Tout ça pour dire que ça ne se porte pas, ce genre de choses. Avec du recul, Marie-Laure se dit que c'était une manière d'élargir le champ de l'emprise au corps, avant de s'emparer de sa tête. Elle perd le contrôle de son propre corps. On est en train de l'infantiliser. Par exemple, à 24 ans, elle doit demander la permission de prendre un Doliprane.
« Ma sœur, j'ai mal à la tête. Est-ce que je peux prendre un paracétamol ?»
On est en train de l'effacer. C'est comme ça qu'elle voit les choses aujourd'hui. On l'a effacée au service de la communauté Saint-Jean. Et puis vient le moment où, après 8 mois de noviciat, le 1er mai 1999, Marie-Laure devient pleinement Sœur Marie-Laure. La cérémonie se passe sur une pelouse devant le bâtiment du noviciat. Est-ce qu'elle est heureuse à ce moment-là ? Non, elle est épuisée. Elle est épuisée nerveusement et physiquement. Elle a ce sentiment de ne pas être à sa place. Le samedi, le fameux jour de désert, elle écoute souvent le concerto en ré mineur pour violon et hautbois de Bach. Ça lui met un de ses bourdons. Et là, elle chiale. Elle chiale de tout son corps. Elle ne va pas bien. En août 2001, Marie-Laure prononce ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et elle devient une sœur à part entière de la communauté.
Sœur Marie-Laure, nous avons décidé de vous envoyer à Cebu, aux Philippines. Vous allez participer à la fondation d'un nouveau prieuré de la communauté.
Et là, d'un coup, elle jubile. Voilà la vie de missionnaire qu'elle attendait, façon sœur Emmanuel. Et donc, en septembre 2001, sœur Marie-Laure atterrit à Cebu. Et là, elle déchante tout de suite. D'abord, le couvent est dans un quartier résidentiel, un quartier de la classe moyenne. Elle n'est absolument pas au milieu des pauvres, comme sœur Emmanuel. Et puis sœur Marthe n'est pas là. Elle doit faire le deuil de sa relation fusionnelle avec elle. Il me fallait désormais assumer au quotidien son absence. Mais curieusement, je souffrais moins de son absence physique que de sa présence obsédante dans mes pensées. Pendant un an, elle vit séparée de sœur Marthe. Et puis en septembre 2002, sœur Marthe vient aux Philippines, tournée d'inspection. Et là, c'est formidable. Elle la retrouve. Pendant tout son séjour, elle lui sert de traductrice. Elle lui fait visiter le coin. Elles vont marcher dans la montagne. Pendant 5 jours, elle ne se quitte pas d'une semelle. Marie-Laure reste 2 ans aux Philippines. Et puis elle rentre en France. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose elle-même à Sœur Marthe de devenir son assistante, son bras droit. Aussi incroyable que cela puisse paraître à mes yeux aujourd'hui, j'ai consenti à replonger dans un lien exclusif avec elle. Je m'apprêtais à rentrer dans l'antichambre de la reine. Et là, elle se met à agir avec les jeunes sœurs dont Sœur Marthe a la charge, exactement comme on a agi avec elle. Elle leur rabâche un discours tout fait, tout prémâché, destiné à verrouiller leur esprit.
Tu te sens éprouvée, ma sœur?
Mais enfin, tu n'aurais pas tenu plus de 6 mois dans cette vie exigeante si tu n'étais pas portée par la grâce de Dieu. Et si tu as la grâce, c'est que tu as la vocation.
Et bien entendu, sœur Marie-Laure répète et rapporte à sœur Marthe tout ce que lui confient les jeunes sœurs en bon petit soldat. En 2007, de retour d'une mission en Chine, sœur Marie-Laure tombe malade. Des maux de ventre terribles. On lui diagnostique une tumeur bénigne. Elle se fait opérer. Mais en complément, sœur Marthe insiste.
Il faut te faire exorciser, ma fille. Le mal est en toi.
Et c'est le père Paul-Marie qui s'y colle. Et voilà comment ça se passe. Chaque séance commence par un bilan des dernières attaques du démon.
Ma sœur, avez-vous ressenti ces derniers temps des douleurs musculaires? Avez-vous fait des cauchemars? Avez-vous eu des hallucinations, des engourdissements peut-être, des crises de larmes? Le démon, ma fille, profite de vos failles pour influencer vos vies. Vos failles sont des portes ouvertes pour le diable.
Mais de quelles failles parle-t-il? Eh bien, des blessures familiales. Est-ce que dans votre famille, on n'aurait pas pratiqué le spiritisme, la voyance, la magie? N'aurait-on pas commis chez vous des péchés graves? Avortement, suicide, crime, franc-maçonnerie. Et donc, le père Paul-Marie pratique sur elle des séances d'exorcisme. Ça se passe en général dans la chapelle à l'étage de son prieuré. L'endroit est tendu de rideaux violets et tapissé d'icônes dorées. Il relève la capuche de son habit façon nom de la rose. Elle se met à genoux, dos à lui, et il se met à réciter le prologue de Saint Jean.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence.
Et là, rien de ce qui d'un coup, fait. Sœur Marie-Laure sent son corps qui se tord, qui se cabre.
En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière.
Elle sent même son corps qui se soulève de terre. Et puis qui retombe. Elle sort de cette séance épuisée, comme si elle avait fait un footing. Le père Paul-Marie, lui, est dépité.
Ma sœur, je ne sais pas quoi faire. Si vous ne vous corrigez pas, le démon fera tout pour vous faire quitter le couvent tôt.
Et maintenant, une question qu'il faut bien évoquer. Je suis sûr que vous y avez pensé, vous aussi. Marie-Laure est-elle amoureuse de Sœur Marthe? Et inversement d'ailleurs, Sœur Marthe est-elle amoureuse de Marie-Laure? Sœur Marie-Laure, en tout cas, se pose la question. Par exemple, quand elle la voit dans son bureau, souvent à la nuit tombée, elles sont tellement proches que leurs genoux se touchent. Et parfois, l'autre lui prend les mains et elle lui caresse les mains. C'est sensuel. Et quand elle sort, elle se sent sale de ça. Elle se sent impure. Alors une fois, elle lui en parle.
Mais ma petite Marie-Laure, quand on aime tout ce qu'on est. C'est normal ce que tu ressens. C'est bien d'être sensible.
Pour être honnête, sœur Marthe, je me demande si je suis pas homosexuel.
Ne t'inquiète pas. Moi, je suis pur dans ma sensibilité. Alors ça ne m'inquiète pas que tu vives cela face à moi.
Tordu, tordu. Et ça commence à se savoir à l'extérieur que ce sont des tordus. En 2009, la communauté de Saint-Jean est accusée de dérive sectaire. Et ça, sœur Marie-Laure l'apprend alors qu'elle est en mission au Québec, par un coup de fil d'une sœur de Saint-Jaudin.
Marie-Laure ? Le cardinal Barbarin vient de débarquer à Saint-Jaudard. Il a décidé de reprendre le contrôle de la communauté.
Le cardinal a débarqué, en effet. Et il a destitué tous les cadres de la communauté, sœur Marthe en tête. La crise, il faut dire, couvait depuis un bon moment. La communauté est accusée de maltraitance et de dérive sectaire. Le fer est porté par des associations anti-sectes et par un magazine catholique progressiste, Goliath. Pendant des années, le cardinal Barbarin a mis les responsables de la communauté en garde. Et là, il tranche dans le lard. Il les vire. Et comment réagissent les sœurs ? Elles disent que c'est un complot. Marie-Laure en tête. Impossible de le nier. J'ai vécu ces événements dans une grande ambivalence intérieure. Devant cette remise en cause soudaine de mes repères, j'ai adhéré à la défense collective du système établi. Je demeurais comme aimanté à Marthe. Remettre en question l'autorité de ma supérieure revenait à tuer une partie de moi-même. Et donc, Marie-Laure rentre du Canada pour se lancer avec les autres, dans la résistance. Il est question à un moment d'aller s'installer dans un autre pays et de partir en croisade à Rome pour tenter de convaincre le pape, le cardinal à tort. Et puis à un moment, Marie-Laure décide de retourner au Québec. Et peu à peu, le doute émerge. Elle se confie à un ami, Sylvain, un Québécois, un laïc très engagé dans sa paroisse qui anime les messes avec sa guitare. Marie-Laure est tout simplement en train de tomber amoureuse de Sylvain. Il y a des moments où je me sens perdu par rapport à ma vocation. C'est comme si il y avait en moi un combat de vie et de mort. Je n'ai que le désir de vivre de plus en plus, de vivre enfin pleinement. Mais j'ai le sentiment que Dieu me demande au contraire de mourir. Parfois je ne trouve plus de vie dans cette vie avec les sœurs, mais plutôt du vide, de la solitude, du non-sens. L'amitié avec Sylvain vient me chercher dans tout ça. Et petit à petit, Marie-Laure ouvre les yeux. Elle voit de plus en plus clairement les dysfonctionnements de sa communauté et pas à pas, elle prend des distances. En novembre 2009, elle appelle ses parents au téléphone, elle leur raconte tout, tout ce qu'elle ne leur a pas dit pendant toutes ces années. Et en février 2010, elle obtient de Rome qu'on la dispense de ses vœux. Ça s'appelle un indulte. Elle retourne à la vie civile. Et aujourd'hui, eh bien elle est mariée à Sylvain. Et mère de deux enfants.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.